All right, midi 2, Antonine Iaccarini vient de faire son entrée en studio. Être bonheur, être bonne humeur, Antonine.
Ben oui, toujours.
Elle doit passer un bel été, salut.
Ben, je me mets de bonne humeur pour vous autres. Là. Okay. Donc, ça me dirait que c'est pas nécessairement toujours le cas.
OK, sous les projecteurs, là, t'as toujours le grand sourire.
C'est ça.
Il y a le professionnel puis le personnel, là, tant qu'on t'agace okay. pas.
Ben, c'est parce qu'il y a une affaire d'amour inconditionnel.
Ben oui, aussi.
T'sais, vous m'aimez, mais si j'arrive ici avec un air bête à
ouais,
toutes les semaines... Non,
tandis que ton chum, t'as des enfants avec, fait qu'il
n'y
a pas le choix. Il n'y a pas le choix de t'endurer.
Ouais, puis il n'est pas allé chercher son assiette dans la cuisine. Puis, ben, tu sais, c'est toutes des affaires du quotidien. Sa tasse dans le lavabo, le couteau dans...
T'sais. C'est ça, oui. Moi, je sais pas votre ménage,
ça
a l'air de quoi,
puis... Tu t'en sers encore moins en onde de ça. Hein?
Mais voyons les filles. Tu passes un bel été?
Super bel été.
Ouais, on dirait qu'on n'a pas à paix de l'actualité. Non, puis en même temps, ben, quand on fait de la radio d'été, c'est le fun.
Merci,
parce que ça
oui.
bouge dans l'actualité. Là. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un été où c'était comme ça. Il se passait toujours quelque chose, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral ou encore à l'international. On dirait que ça brasse partout actuellement.
On n'a plus de pause estivale parce que l'été passé, non plus, rappelez-vous quand même, avec Biden qui s'était retiré, l'arrivée de Kamala Harris, le débat catastrophique de Joe Biden juste avant, ça avait quand même brassé. Donc, on n'a plus cette pause d'été. Puis je pense que ça va encore plus s'accélérer la semaine prochaine, évidemment, parce que bien qu'on est encore l'été, il y a comme une séquence politique intense là, qui va commencer sur la scène québécoise. On en parlait un peu moins de la politique québécoise, c'est beaucoup fédéral puis américaine. Lundi, élection partielle dans Arthabaska.
Exact.
Il y a un caucus de la CAQ à Québec la semaine prochaine, 14-15 août.
Qui est une
aussi.
Première depuis 2018. En fait, depuis que la CAQ est au pouvoir, ils n'ont jamais fait ce caucus-là si de bonheur. Normalement, c'était à la fête du travail, un petit peu après la fête du travail.
Oui, il y a des caucus qu'on dit pré-sessionnels là, pour la rentrée parlementaire, mais là, c'est un caucus spécial. Alors, il est spécial. Là. C'est sûr, ça a amené un peu de spéculation. Est-ce qu'il va y avoir un remaniement ministériel? Il semble que non, ce ne soit pas nécessairement l'objectif là, de faire venir tout le monde à Québec les 14 et 15. Remaniement plutôt en septembre.
OK, mais c'est bel et bien certain qu'il y aura un remaniement ministériel. Qu'est-ce que ça laisse présager, ça, d'un remaniement ministériel pour ce qui est de l'électeur? C'est-tu parce que le gouvernement constate que plus rien ne va plus dans certains portefeuilles, puis on doit montrer à la population qu'on gère encore le Québec?
Souvent, c'est pour se donner un nouvel élan, changer le focus, changer un peu la conversation. Donc, c'est comme une carte qu'on a dans notre jeu. M. Legault n'aime pas ça, faire des remaniements. Il n'en a pas fait beaucoup. Il a fait un petit remaniement en 2020. C'est là que Christian Dubé est devenu ministre de la Santé, d'ailleurs. Sonia Lebel est allée au Trésor, puis Simon-Jean Barrette est allé à la Justice. C'est le plus gros remaniement qu'il a fait. Il y avait 5 ministres qui étaient bougés. Après ça, il y a eu des ajustements ministériels. Par exemple, un ministre qui ne voulait plus être ministre régional. Des affaires de même, mais c'est vraiment des petites choses. Il y a quand Pierre Fitzgibbon a quitté, là, on a mis Christophe Fréchette, on a fait des petits changements, mais c'est très mineur. Il n'aime pas ça. Hein? On a des ministres dans ce gouvernement-là qui sont là depuis 2018 dans le même portefeuille.
Ouais, puis...
Jean Boulet le travail depuis 2018.
Mais il y en a qui réussissent, d'autres moins. On a vu, comme tu disais, des switches, dont à l'éducation, puis finalement, pour Robert, ça se passe super bien, oui, maintenant. Mais est-ce que les ministres ont beaucoup, ben, quand même, je veux dire, il y en a qui sont
L'éducation, c'est pas un dossier facile. Je trouve que Jean-François Roberge a toffé longtemps, somme toute.
Non, maintenant, oui. Ça fonctionne mieux que l'éducation. Est-ce qu'ils ont beaucoup de pouvoir sur leur position? Parce que souvent, on va entendre certains qui vont se prononcer, mais rarement, la majorité ne se prononceront pas à l'arrivée d'un caucus puis un remaniement ministériel,
Non.
Sachant qu'ils ne veulent pas créer de pression au premier ministre, ils veulent être encore dans la bonne lignée et être appréciés.
Honnêtement, ça ne se fait pas de dire publiquement ce que tu veux.
Est-ce qu'à l'interne, ils se disent « je ne veux plus être à la tête de ce ministère-là » Est-ce que c'est bien vu ou
oui,
tu travailles un peu tassé?
Ça se fait. Donc là, probablement qu'il y a un travail en ce moment, s'il n'est pas encore commencé, qui va commencer bientôt, où on va demander plusieurs questions aux ministres actuels. Premièrement, on va leur demander est-ce qu'ils se représentent en 2026? Si tu dis non, c'est pas garanti que tu ne seras plus ministre, parce que j'ai l'impression qu'il resterait peut-être pas tant de gens. En tout cas, on verra. Là, je ne veux pas spéculer, mais c'est sûr que les sondages sont pas très favorables. Il y a des gens qui sont là depuis un petit moment. On peut penser qu'il va y avoir quand même pas mal de départs. Mais si tu dis non, mais c'est sûr que tu augmentes tes chances de perdre un portefeuille ou un portefeuille d'importance, ça dépend.
Mais
après ça, il faut faire attention. Parité, région, il y a toutes sortes d'impératifs, c'est très
dur. Ça pèse lourd, ça, encore?
Ouais. Oui. Puis, y a-t-il des négociations avec les députés qui sortent peut-être du lot ou encore avec les ministres qui sont en place? Parce que quand moi, je me suis fait raconter l'ère Charest, il y en a qui devenaient ministres, puis il y en a qui perdaient leur portefeuille, puis il n'y avait pas grande discussion sous l'ère Charest.
Non.
Est-ce que tu as l'impression qu'avec l'ère Legault, il y a de la négociation? négociation pour pas trop que ça déplaise aux gens?
Ben en fait, choisir les portefeuilles des ministres puis monter le Conseil des ministres, c'est vraiment la prérogative du premier ministre et tout le monde est très, très conscient de ça. Normalement, tu choisis pas ton portefeuille.
Ouais.
Tu peux dire tes préférences. Puis tu peux dire, moi, c'est vraiment, je ne veux pas faire ça.
Tu peux avoir un CV qui va en conséquence un ministère aussi.
Tu sais, je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le petit remaniement en 2020, c'était Danielle Mécan qui était ministre de la Santé.
Et j'avais oublié
Danielle Mécan, elle n'a pas choisi d'être remaniée. Okay? Puis en coulisses, là, elle n'était pas contente du tout. Et le premier dossier qu'ils lui ont offert, quand ils l'ont remaniée, elle a dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Puis moi, selon mes sources, on me dit qu'elle a dit, je vais sacrer mon camp. Donc là, ils ont bougé les choses. Puis c'est pour ça que le remaniement était un petit peu plus large, finalement. Mm-hmm. Pour y trouver un dossier, ils l'ont mis à l'enseignement supérieur, finalement. Elle a accepté le dossier. Donc oui, c'est la prérogative du premier ministre. C'est pas très bien vu de commencer à chicher, là, puis à dire, okay, non, mais je veux pas faire ça, etc. C'est comme un privilège qu'on te donne. Par contre, il y a des gens qui ont plus de poids. T'sais, c'est sûr que... Un Pierre Fitzgibbon, quand il est arrivé, c'était clair qu'il allait avoir l'économie, puis on le voyait pas vraiment prendre sport et conditions féminines, mettons.
Non. Mettons. Ben, ça a été sablon.
Ben, c'est ça!
Mais parce que sous la charrette, on me parlait d'un ascenseur. Là. T'étais en bas, tu savais pas trop ce qui allait arriver, tu montais dans l'ascenseur, puis là, tu savais ce qui arrivait, après ça, tu descendais.
Puis tu te faisais donner un directeur de cabinet aussi, là. T'sais,
en plus?
Oui, souvent, okay, c'est le cabinet du premier ministre qui va déterminer c'est qui ton directeur de cabinet.
Okay.
Un petit peu négo. Si vraiment ça clique pas, ça fit pas, il y a moyen, mais généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Puis après ça, tu
c'est un grand leadership. Au final, ça doit être la position de leadership la plus importante quand tu es premier ministre.
Ben, ouais. C'est énorme, le pouvoir du premier ministre dans notre système politique.
Moi, je pense qu'il va y avoir une course à la chefferie dans les prochains mois. Est-ce que l'attribution des ministères va avoir un impact avec cette course à la chefferie-là?
C'est un autre impératif avec lequel il doit conjuguer.
Ouais.
Parce que les successeurs potentiels, il faut que tu fasses attention. Disons-le, la vice-première ministre en ce moment, c'est Geneviève Guilbeault.
Ouais. Puis elle, elle veut le poste.
Ben, c'est sûr que si tu lui enlèves, ça a l'air d'une démotion. Puis les gens vont se demander, est-ce qu'elle est punie? Elle n'a pas la faveur du premier ministre? Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas que ce soit elle qui soit la successeur, etc.? Mm-hmm. C'est toutes des choses qui peuvent traverser l'esprit des gens. Donc, par exemple, il faut qu'il y ait un certain équilibre. C'est quoi les noms qui circulent pour prendre la relève éventuellement comme chef de la CAQ? Simon-Jolin Barrette, Bernard Drinville, Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault, Christian Dubé, s'il veut continuer sa carrière politique. Il faut que tu... et une certaine équité pour ne pas avoir l'air de favoriser quelqu'un, à moins que tu décides que ben, François Legault peut bien faire ce qu'il veut aussi. Il n'y a pas de loi contre ça, c'est plus des conventions. Mais il faut que tu aies une certaine équité entre les successeurs potentiels qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas sus. Ouais.
C'est tout ce qu'ils ont dit. En ce moment, parce que bon, la CAQ est dans l'eau plus que chaude, là, ça bouille. Là. Est-ce que c'est sensible de remanier énormément son caucus, puis
ben
c'est parce que tu veux une continuité, sinon t'envoies ça entre les mains de quelqu'un qui doit
tu
tout réapprendre.
Tu veux aussi éviter de créer des frustrations trop grandes. Parce que là, c'est quoi l'ambiance en ce moment? Là, tout le monde regarde les sondages. Tu regardes sur Québec 125, tu te dis « Bon, ben moi, je perds mon comté. Là, à la prochaine élection, on partit comme c'est là. » Là, généralement, là, inside caucus, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le monde dit « Ça, c'est la faute des communications. » Moi, j'ai été aux communications longtemps. Là.
Ouais.
C'est parce qu'on communique mal. Hein? Toujours c'est, toujours... c'est pas parce que ce qu'on a communiqué n'est pas bon. C'est la faute des communications.
Moi, je pense que je t'en avais parlé. Je sais que j'en ai parlé à Pascal. Je suis pas sûr que tu étais là à ce moment-là, mais j'ai parlé avec une personne qui était quand même assez haut gradée au niveau des communications à la Coalition Avenir Québec qui a décidé de sacrer son camp. Puis ce qu'elle disait, c'est qu'à chaque fois, ça tombait constamment sur la tête des communications.
C'est un running gag!
Alors qu'il y avait eu des discussions auparavant en disant « Si vous faites ça, ça risque de donner ça à peu près comme résultat. » Puis une fois que ça a donné exactement ça comme
c'est
résultat...
C'est la faute des coms. Il fallait pas faire ça. Ouais. C'est un classique.
Alors que
absolu.
Tout était écrit, là.
Ah, ben c'est comme mon rôle ici, ça veut dire, Yannick.
C'est très bon de faire des coms en cabinet politique. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais tout ça pour dire que ça grenouille un peu dans le caucus.
Ouais.
Quand je dis un peu, c'est que les gens ne sont pas en train de pousser François Legault vers la porte du tout. Je pense que les gens sont très conscients que c'est le parti qui l'a construit, qui ont été élus en 2018 puis en 2022... beaucoup grâce à François Legault. Il a été très populaire. Donc, les gens ne le poussent pas vers la porte. Mais c'est sûr que tout le monde se gratte la tête en se disant « Est-ce qu'on a la bonne stratégie? » Puis là, tout le monde commence à avoir des idées. « On devrait aller plus par là. On devrait aller plus par là. On devrait réformer nos communications. Il faut faire plus de médias sociaux. » Tu sais, on entend tout le temps des affaires de même là, autour de la table du caucus. Là, ce qui va se passer, c'est que il ne faut pas que le premier ministre perde l'appui de son caucus. Donc, c'est sûr que si tu commences à faire des gros changements, que tu fais perdre des portefeuilles à des gens, par exemple, qui sont très appréciés d'autres députés, si tu as des députés qui pensent qu'ils vont devenir ministres, eux autres, ils se voient là, ça y est, là, ils vont devenir ministres, puis là, ils sont pas ministres, mais ça peut augmenter le niveau de frustration. Mm-hmm. Je pense que c'est un des éléments qui explique pourquoi François Legault en a fait si peu de remaniements, contrairement à un Jean Charest qui en faisait, puis en faisait des gros à part de ça, c'est qu'il aime pas ça faire des vagues à l'intérieur de son caucus.
OK. Puis... Moi, je dis décembre. Là. Décembre, il devrait nous quitter, ou peut-être janvier. Là. Mais est-ce que... Parce que quand on regarde sur Québec 125, les projections, c'est catastrophique pour la CAQ à la grandeur du Québec. Est-ce qu'avec un François Legault qui décide de rester là pour les prochaines années, ce qui nous surprendrait, il pourrait remonter dans les sondages? Ou on va prendre peut-être quelqu'un de l'extérieur? Puis je le sais qu'il a dit non 150 000 fois, puis c'est dans la famille de Leclerc Communication, mais tu sais, un gars comme Mario Dumont, qui a une carrière bien entamée dans les médias, qui fait son argent, qui se fait pas écœurer comme il se faisait écœurer quand il était en politique. Lui qui arrive à la coalition Avenir Québec, ça pourrait-tu faire changer l'ambiance actuelle?
Mais c'est sûr qu'après ce qui s'est passé au palier fédéral avec le départ de Justin Trudeau, l'arrivée de Mark Carney, ça nous laisse entendre que c'est possible qu'un parti politique, même s'il a été là longtemps, même s'il est usé, même si les gens sont pas contents, avec un changement de chef, les choses peuvent changer.
Mais c'est que quelqu'un
François
de l'extérieur.
Legault, ben c'est ça. Est-ce que, ben même à l'intérieur, c'est de la spéculation, on ne le sait pas. Puis la CAQ s'est articulée autour de François Legault. Donc c'est très très incertain, puis très imprévisible comment les choses vont se dérouler. Par exemple, si je dis n'importe quoi, mais si Simon-Jeanin Barrette devient chef demain matin. Est-ce que les députés qui sont là puis les autres ministres vont être contents du leadership qui vont être exercés? Parce que la CAQ, c'est une coalition, puis on le sait qu'il y a des gens qui pensent très, très différemment là, à l'intérieur de ce parti politique-là. Probablement aussi que François Legault, il y a un aspect de se demander qu'est-ce que va être la CAQ après moi, puis ça a l'air un peu, tu sais, égocentrique, mais c'est vrai que c'est un parti.
Ben, c'est son bébé. Là.
C'est son bébé.
Ouais. Il y a eu quelques feux
avec
aussi.
Avec Charles Sirois. Charles Sirois, est-ce encore dans les discussions à la Coalition Avenir Québec, ou il est à l'extérieur depuis quelques années?
Plus à l'extérieur depuis quelques années, quoique les amitiés doivent
se
demeurer.
Un peu.
C'est drôle, hein? Je pense pas que ça va descendre. Disons, là, on spécule. On est, c'est nous, là, les grands stratèges de la CAQ. Là, on est au honoré merci, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Tu sais, Mark Carney, ils l'ont fait dans une séquence très, très courte. Puis il a battu le fer pendant qu'il était très, très chaud. Les gens ne le connaissaient pas beaucoup pendant la campagne. Est-ce qu'il pourrait décider, plus à la dernière minute, très, très proche de l'élection, de faire un espèce de coup fumant? Tu sais, ça pourrait être une idée. Mais
il faut que les conditions soient gagnantes. Là, les conditions étaient gagnantes parce que tu avais le gros orange l'autre bord. Tu avais Mark Carney qui avait quand même un beau gros CV, on va se le dire.
On
disait que c'était lui qui était le meilleur pour négocier avec Donald Trump, tandis que Pierre Poilievre n'avait pas le CV de Mark Carney. Donc, ça l'a aidé. Là. Mais là, trouver un ennemi commun, ça va être assez difficile là, du côté de la coalition Avenir Québec. Là.
Non. Puis, tu sais, on le sait, on voit un retour de la dynamique plus traditionnelle, PQ. PLQ, la CAQ se retrouve un peu écartée. Dans certaines régions, il y a le Parti conservateur qui fait évidemment des bons résultats. On peut penser Région de Québec. Éric Duhem a des chances de se faire élire lundi. On verra ce qui va se passer. Qui vient manger un peu le Parti conservateur, une partie du lunch aussi de la CAQ, peut-être le cœur plus adéquiste de cette formation politique-là. Bon, que plusieurs trouvaient en voie de disparition, mais quand même, ça aurait pu être une valeur refuge aussi là, de se camper un petit peu plus vers la droite économique. Mais avec le Parti conservateur qui mange une partie du vote de la CAQ dans certaines régions, le PQ qui mange un peu le vote nationaliste, et le Parti libéral qui recommence aussi à manger un peu le vote plus économique, chambre de commerce, plus bon gestionnaire, etc. Il ne reste pas grand-chose à la fin de la journée là, pour la CAQ en ce moment. Est-ce que, tu sais, tantôt tu posais la question, est-ce que ça peut remonter? On ne voit pas ça souvent. Est-ce que ça peut? Je pense que oui, puis tout peut arriver. On a tellement été surpris, il me semble, par la scène politique des dernières années que moi, les grandes certitudes, j'en ai plus. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile une fois que le mouvement là, d'usure est bien, bien installé.
Exact. C'est pour ça que je pense à une personne de l'extérieur, mais des gens qui seraient peut-être intéressés en politique. C'est rendu tough, la politique, en 2025, avec les réseaux sociaux, avec les groupes d'opposition qui sont souvent là pour s'opposer plutôt que proposer des idées qui pourraient peut-être aider. Ils sont toujours là à s'opposer constamment. C'est de la pression en
maudit. J'ajoute un élément dans ta réflexion, c'est que pourquoi reprendre un parti existant alors qu'on voit un phénomène où les gens maintenant créent des partis politiques nouveaux? T'sais, on peut penser en France, Emmanuel Macron avait créé son propre parti politique, puis a fait deux quinquennats comme président avec son parti En Marche, puis après qu'il a changé de nom pour un autre nom. François Legault qui est arrivé, qui a créé la CAQ, l'arrivée de Québec solidaire dans les dernières années.
Ouais.
Mettons que t'es Mario Dumont, là.
Ah, moi, je reste exactement là où il est. Il est dans les médias, il fait son argent.
Mais mettons qu'il y a l'appel, là. Puis dis-moi, là, mettons qu'il ne sera pas complète là, tant que je ne serai pas premier ministre.
Au moins, lui, il a déjà fait de la politique, parce que si tu m'avais dit un quidam qui n'a jamais fait de la politique, qui veut créer son parti, j'aurais fait « Ouh, d'après moi, ça va manger la poussière un peu, ça va être le Far West avec des boules. »
Oui, des fois, on pense que c'est plus facile que c'est.
Parce que la structure.
Mais tu serais pas mieux de partir un nouveau parti? Je ne sais pas, je réfléchis à haute voix, là.
Ce serait assurément quelque chose qui aurait un côté marketing beaucoup plus fort.
T'sais, tu repasses ça à neuf, là, t'arrives pas avec... T'sais, veux pas, t'arrives avec un caucus à la CAQ qui est très diversifié, là, t'sais, c'est pas toujours évident. Tu souffres toujours de la comparaison aussi avec M. Legault. M. Legault, il faisait ci, comme ça. T'sais, de partir quelque chose de nouveau, c'est pas facile, on peut le dire.
C'est un chemin de croix, là, t'sais. Éric Duhem, je veux dire, ça fait quand même une couple d'années qu'il n'y a pas de salaire, là. Puis lui, ben, il achète des maisons, des condos, en fait, il retape, il revend, t'sais, il essaie de continuer à faire de l'argent comme ça. Il y a un petit peu d'aide du parti aussi, de ce que je comprends, mais c'est un chemin de croix, là, quand tu es habitué à des salaires comme Mario Dumont peut avoir.
Ah, y a des
vies là, de te faire dire que pendant 4 ans, tu n'auras pas de salaire. Explique ça à ton conjoint, ta conjointe. Oh, bye-bye.
Bonne chance, des belles discussions de famille à l'horizon.
Hey, c'est des partis qui sont peut-être un peu moins en vue présentement, là, mais c'est quoi les défis de Québec solidaire puis le Parti libéral actuellement?
Bon, le Parti libéral est assez discret hein, cet été. Donc, ils profitent de leur été, ils sont pas sur la sellette, il y a un nouveau chef, Pablo Rodriguez. Ils sont quand même présents dans Arthabasca en passant, là, même s'ils sont pas très compétitifs dans Arthabasca. Ils ont une bonne candidate, Chantal Lamarche, si je ne m'abuse.
Un petit peu moins de chance, par contre, quand tu te retrouves avec deux candidats vedettes qui se coltaillent comme Alex Boissonneau et Éric Duhem. On s'entend que la visibilité...
Mais les attentes sont tellement basses, ça fera rien au Parti libéral, une défaite dans Arthabasca. Oh,
non,
il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise.
Ouais.
On les considère même pas des fois dans l'élection.
Absolument pas, sauf que quand même, ils ont pu montrer qu'ils étaient capables de recruter des bons candidats parce que c'est quelqu'un qui est apprécié dans la région puis qui est respecté par les autres équipes électorales d'ailleurs. Il va y avoir une rentrée parlementaire qui va être importante pour le Parti libéral, mais une rentrée parlementaire sans vraiment Pablo, parce que c'est Marois Risky qui va être la chef parlementaire qui risque de prendre beaucoup de place, ce qui est un atout important pour
le Parti libéral. Qui est la véritable chef de ce parti-là? Là,
en même temps,
par défaut, Pablo est arrivé. Là.
En même temps, elle s'en va et ça va devoir être Pablo Rodriguez qui fasse la campagne en 2026. J'ai pas été impressionnée par son niveau pendant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, pendant les débats notamment. Je me disais, mon Dieu, quand il va être rendu au débat des chefs, là, parce que là, tout le monde, on s'entend que dans un débat de course à la chefferie, le monde fait attention, il s'attaque pas trop fort, etc. Il y a du chemin à faire pour être un debater et un campaigner vraiment hors pair pour la campagne en 2026. Puis là, c'est Marois Risky qui va être très visible, ce qui est bon pour le Parti libéral. Quelle place Pablo Rodriguez va prendre là-dedans? Pour l'instant, je le trouve très prudent. Il ne s'expose pas trop. Est-ce qu'il se préserve pour essayer de ne pas s'user trop rapidement avant la campagne électorale? Fait que ça va être ça un peu le défi du Parti libéral. Reprendre aussi le créneau de l'économie. Il est vraiment à accueillir parce que ça a été difficile pour la CAQ les dernières années. On peut parler évidemment de Northvolt, c'est un gros symbole. Mais c'est sûr que ça a entaché un peu le branding économique de la CAQ. Donc, le Parti libéral, c'est un fruit qu'ils veulent aller cueillir, compte tenu que c'était là, traditionnellement le parti de l'économie.
Oui, puis c'est curieux parce qu'ils ont pris un chef qui était un peu plus à gauche là, au niveau économique, qui a appuyé les politiques de Justin Trudeau au niveau de l'économie, qui nous ont mis dans le trouble, ces politiques-là. Là, c'est un profil de droite économique pour ce qui est du Parti libéral. Puis là, on prend un chef qui est un peu plus à gauche. Il va y avoir de bonnes discussions à l'intérieur de ce parti-là. Pour ce qui est de Québec solidaire, sont-ils encore en vie?
Toujours vivants, toujours là. Ils sont très présents dans Arthabasca parce que c'était un reproche qui leur avait été fait dans l'élection partielle de Terrebonne. Aucun député était venu soutenir leur candidate pendant la partielle. Incroyable quand même. Comment tu veux recruter des candidats si tu ne les soutiens pas quand ils décident de porter les couleurs de ta formation politique? Ouais. Donc là, ils sont dans Arthabasca, ils font du porte-à-porte, ils se prennent en photo puis ils sont comme en mode, là, voyez, on s'occupe de notre candidate. Aucune chance de gagner dans Arthabasca, évidemment, pour Québec solidaire.
Ils sont à 6%.
Cela dit, ils sont là, les attentes sont plutôt basses, fait que ça ne change rien pour Québec solidaire. Par contre, Québec solidaire a plusieurs problèmes, notamment des gens qui sont en train un peu de se démobiliser là, autour de la formation politique. Je voyais encore ce matin le Mélissa Généreux, qui était leur candidate dans Saint-François, dernière campagne électorale, qui risque fortement d'être candidate pour le PQ à la prochaine élection. Nadia Poirier, leur candidate dans Terrebonne, qui a annoncé qu'elle joignait le Parti québécois aussi. Il y a plusieurs députés de renom qui ne se représentent pas, je pense à Christine Labrie notamment, Vincent Marissal, qui n'a pas confirmé, mais qui dit « je pense pas ».
Il devrait quitter.
Qui devrait quitter également Gabriel Nadeau-Dubois, qui a quitté. Ils sont vraiment dans un creux.
Est-ce qu'ils pourraient revenir ailleurs?
revenir ailleurs.
Ben, ils sont Gabriel en train de transférer pour le Parti québécois.
Bien sûr. Ouais.
Est-ce que là,
on n'a pas fini d'en entendre parler.
Okay. C'était ma question. Est-ce qu'il pourrait revenir ailleurs? Si oui, on le voit où, Antonin Niacarini?
Ben, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois pourrait avoir une carrière dans les médias pendant plusieurs années. Il pourrait décider de partir à un autre mouvement politique, un autre parti. Okay. Il pourrait, tu sais, je pense
tu
que toutes
qu'il
les portes sont
son propre parti à sa manière, à sa main.
Ben, il n'a pas réussi à réformer ce parti-là.
Puis c'était une quête qui semblait assez tangible pour lui, là.
Oui, puis ça fait partie aussi du mur qui est en train de prendre Québec solidaire, parce que Gabriel Nadeau-Dubois était 100% investi, il s'est donné à 100%, il a voulu réformer puis en faire un parti qui avait des chances d'aller au gouvernement. Et bien, c'est un échec. Donc, c'est un parti qui n'est pas réformable, c'est un parti qui ne veut pas faire les compromis pour pouvoir être au pouvoir. Ils veulent garder leur saveur, leur couleur qui est différente, mais en même temps, ça joue plus le rôle d'un groupe de pression à l'intérieur.
Il va aller faire son chemin de croix dans les médias, il va jaser un peu, commenter un peu, puis oui, je suis persuadé qu'il va aller au Parti québécois, je suis pas mal persuadé.
Je te prends de court aussi, Yannick. J'aimerais ça que les deux vous répondiez à cette question-là. Quelqu'un qui n'est plus en politique, qui devrait revenir, selon vous?
Ben moi, je l'ai dit, là. Tu sais, le jour où Mario Dumont va décider de revenir en enfer de la politique, là, je pense qu'il va être un game changer.
Puis, aurais-tu un autre candidat ou une autre candidate?
Ouais, Marois Risky, là.
Ben, c'est ça.
Moi, c'est elle que
mais c'est
je
deux
vois
faciles.
Comme de
Marois,
next one.
Marois, s'il vous plaît, on peut-tu payer de nos propres poches?
Je veux dire, s'il y en a une qui peut représenter tout le monde, là, dans le gros bon sens, c'est bien elle.
Je fais un chèque de 10 $ là.
Ça y est, on sait. Où est-ce qu'on sait? Je pense que Jean Charest, puis là, je vais recevoir probablement des messages, là, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs à plusieurs de nos auditeurs, les années de Jean Charest.
Mais
il est venu un peu se réhabiliter, Jean Charest, avec tout ce qui s'est passé avec les États-Unis, son rôle dans l'équipe de négociation avec les États-Unis. Il donne beaucoup d'entrevues ces temps-ci. Les gens apprécient sa manière d'expliquer, sa manière de présenter les choses. Il a raté son coup pour devenir chef du Parti conservateur du Canada. Je ne suis pas sûre qu'il va vouloir, mais je pense que Jean Charest aurait des opportunités s'il voulait faire un retour en politique.
Qui s'en porterait mieux, le fédéral ou le provincial?
Mais
le municipal, mais Montréal.
Certainement pas le citoyen.
Mais en fait, le problème pour Jean Charest au fédéral, c'est que le Parti conservateur n'est plus ce qu'il était.
Ouais.
Et il ne fit plus avec ce Parti conservateur.
C'était plus au-delà
Mais il est très proche de Mark Carney. Ils sont très ressemblants dans leur manière de gouverner, sauf que là, ça fait un peu girouette. Là,
mais c'était plus au niveau des tâches, parce que le fédéral et le provincial ne s'occupent pas des mêmes affaires. Pour toi, un Jean Charest serait meilleur où?
Ben là, moi, je peux pas, là, aujourd'hui, te dire que Jean Charest était donc extraordinaire au palier provincial.
Moi, ce qui me manque de Jean Charest, là, dans ses frasques, là, c'est un homme qui était capable de rallier ses troupes. Fait, quand il était tête d'un parti, là, le monde avait envie de travailler avec lui.
C'est un leader, c'est un meneur
d'hommes. Pas pour lui. Il avait le goût de travailler avec lui. Il était motivant, puis allait chercher les forces et les faiblesses. Puis les faiblesses de ses membres, il tentait de les transformer en force. En politique, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qui avait autant de charisme applicable dans des vertus là, d'organisation aussi grandes qu'un parti politique. Et qu'on laïsse, qu'on l'aime à tort ou à raison, moi, quelqu'un qui avait un front comme ça, j'aimerais ça le revoir. Bon, sans les phrases qui commission Charbonneau et autres et tout ce qu'on voit qui traîne encore au-dessus de la tête
le
avec
temps
l'épée
passe
d'Amoclès.
Et d'Amoclès, on idéalise un peu les gens.
Ben oui.
Puis on
moi,
oublie,
je veux juste une copie,
le négatif.
Pas confort, mais de cet aspect-là. Et ce que je mets en lumière est important de comprendre là, que c'est ça que je mets en lumière, pas la globalité de Jean Charest.
Moi, j'ai une théorie sur les qualités d'un leader d'un parti politique. C'est les ingrédients dont tu as besoin pour devenir chef d'un parti. Il y a quatre ingrédients, c'est pas compliqué. Un, c'est d'être bon en communication. De toute façon, en politique, t'as pas le choix. Même si t'es super intelligent, si t'es pas capable de communiquer tes affaires, ça marche pas. La deuxième chose, c'est d'être aimable. Okay? Fait que c'est le charisme là, dont tu parles. Il y a des gens qui sont très, très bons en com, mais qui sont pas nécessairement aimés là, des gens. Là. On n'a pas le goût de les aimer. Le troisième ingrédient, c'est d'avoir un pourquoi. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi tu es en politique. Il y a des gens qui sont là, mais tu sais, c'est pas clair exactement c'est quoi qui les motive, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur purpose en bon français.
Donne un exemple d'un pourquoi.
Simon-Jeanlin Barrette, je le sais pourquoi il est en politique. Il a un fil conducteur, c'est un réformateur, c'est un nationaliste, ça paraît, OK?
Un ex-avocat, parce que je ne le pratique pas en ce moment, mais il est toujours...
Pablo Rodriguez, je le sais pas ce qu'il fait en politique. Il est très bon en communication, il est là depuis longtemps, mais je ne sais pas c'est quoi le fil conducteur puis qu'est-ce qui le motive dans la vie. Ça, c'est juste des exemples un peu caricaturaux pour
toujours démontrer
mon affaire.
Qu'il faisait la promotion pour un shampoing, mais je n'ai jamais su la marque.
En tout cas, il pourrait.
C'est vrai qu'il a de très beaux cheveux. Et le quatrième ingrédient, c'est là que j'arrive sur Jean Charest, c'est d'avoir des alliés.
Ouais.
Et ça, là, c'est vraiment pas tous les élus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent tout seuls de leur côté, qui prennent pas beaucoup le temps d'entretenir leur réseau, qui vont essayer d'être proches des gens qui sont très puissants, mais que, tu sais, des fois, les petits députés là, de région, ils s'en occupent pas.
Entretenir un réseau avec authenticité.
Oui.
Parce qu'il y en a qui vont entretenir un réseau par stratégie.
Bien, il y a toujours de la stratégie. Je pense pas que Jean Charest, le matin, tu sais, je pense qu'il est très conscient, il l'était très conscient. Il se souvient trois choses sur toi. Quand il se rappelle que tu as rénové ton chalet, tu sais, c'est quand même utile.
C'était pas sa passion de le savoir.
Ben,
mais authenticité, du genre, tes alliés, c'est pas juste des gens qui vont te servir.
Il y a du monde qui aime le monde.
Ouais.
Et ça paraît.
Ouais.
Ça, je pense qu'en politique, c'est, excusez-moi l'anglicisme, underrated. Mm-hmm. Mais les gens qui aiment le monde, ça paraît. Ouais. Les gens qui aiment pas le monde, ça finit aussi par paraître.
Moi, Jean Charest, je pense que je te l'avais dit à toi, là, c'était quelqu'un que je détestais voir, même sur une peinture. Je le regardais à télé, j'étais pas capable. Puis quand je l'ai eu en entrevue, c'est là que j'ai compris l'effet Jean Charest, c'est devenu... Les caméras étaient parties, il n'y a plus personne qui l'entendait, on était en pause. Puis j'avais l'impression que je connaissais ce gars-là depuis ma tendre enfance. Un gars hyper sympathique qui se souvient de toi, qui va te parler de tes trucs personnels. « Ah, t'as-tu des enfants? OK, comment ils s'appellent? » Puis là,
la prochaine fois qu'il va te croiser, là, dans 10
il
ans,
va s'en
là,
souvenir.
Il va se souvenir des tes enfants.
C'était une de ses forces. Puis il y avait aussi... ça a été un game changer aussi, tout le monde en parle quand il s'était présenté, là. T'sais, les gens l'avaient vu comme sur un autre angle où Jean Charest avait des difficultés au niveau de ses émotions des fois, puis c'était pas toujours facile. T'sais, je me suis dit, hey, tabarouette, c'est un gars qui est capable de faire changer le vent de bord, même après la commission Charbonneau. Charbonneau, là.
Oui.
Commission Charbonneau, sous l'air Charest, on me dit qu'il avait pas rapport avec ça, puis c'est bien correct, là, mais il y avait de la magouille au niveau de la construction, les contrats et tout ça.
Écoute, quand Jean Charest a quitté là, en 2012, là... Je veux dire, là, on en parle positivement, là, mais mettons, là, on refait la même discussion et vous capoteriez du nombre de messages de haine qu'on recevait.
Oh oui.
Les gens étaient écœurés, ils le détestaient. Le Parti libéral, là, après, là, il a
Charest,
passé...
Charest,
cool.
Il y en a qui en faisaient
ça
des,
change
chans,
tellement
des chansons.
Ça change.
En deux minutes, Antonine, je sais qu'on n'aura pas le temps de passer au travers de ce sujet-là, là, mais projet de tramway, plusieurs milliards de dollars. Projet de troisième lien à Québec, plusieurs milliards de dollars. Puis pour les deux projets, moi, j'ai toujours dit, il faudrait aller en référendum. T'sais, quel projet vous voulez, quel projet vous voulez pas. Puis celui-là qui gagne va remporter la palme. Puis ça n'a jamais été là, alors que ça implique des milliards de dollars. De savoir qu'il va y avoir un référendum ou un possible référendum à l'île d'Orléans pour un satané de mini-pot, ça me fait halluciner.
Hey, l'acceptabilité sociale pour un mini-pot. Tu sais, on construit des usines puis des fonderies.
Tu l'as-tu
des...
vu, le mini-pot?
Ben, j'ai vu des photos.
C'est
oui,
le mini-pot de Québec solidaire avec des environnementalistes qui ont tout mis en place pour rien scraper de la nature. Tout est parfait, ce
laisse
mini-pot-là. Laisse-les
vivre. Mais tu sais, avec ce qu'on a vu à...
On l'a pas écouté.
Ben oui, mais tout ce qui est parfait, tu l'as ajouté à la fin.
Non, mais c'est parfait. Ça dérange absolument rien. C'est tout en accord avec la nature. C'est super beau.
Ouais, mais ici, c'est le bruit des bâtons, puis c'est...
Ben, arrêtez de voir ça!
Ouais, mais à Sainte-Pétronille, là, ce qui s'est passé, vous êtes surpris là, qu'on soit là-dedans?
C'est à côté d'un camping où il y a 60 000 personnes qui passent là à chaque année. Là, il y a un mini-pot qui est fait par des passionnés, puis c'est de l'herbe.
Il y a peut-être des enfants aussi qui vont faire du bruit. Hein? Les enfants qui jouent, moi, ça
jardins.
Me dérange.
C'est super beau. Puis là, t'as des messieurs, madame qui sont pas contents qu'il y ait un référendum. C'est l'asile, ici.
Sur l'île d'Orléans, en passant, là, pour faire un lien avec ton troisième lien, puis le tramway, puis tout le kit, les gens qui proposent qu'on fasse un troisième lien qui passe par-dessus l'île d'Orléans, je veux dire, on n'est pas capable de faire un mini-pot sur l'île d'Orléans.
Ouais.
Imaginez-vous.
Moi, c'est plus en dessous.
Ça chicane pendant des mois à Sainte-Pétronille.
Ouais.
Ah non, regarde. Mais ils ont l'air
mais moi,
ben,
j'adore l'île.
Ils ont l'air
là.
Bien à l'île d'Orléans, en tout cas. Ils ont la paix. C'est un peu notre Saint-Lambert. Tu sais, à Montréal, ils ont Saint-Lambert.
Oh, oui.
Non, ça, je trouve ça trop insultant pour l'île d'Orléans.
Je m'excuse.
Saint-Lambert, trop insultant comme comparaison.
Mais ils veulent la paix. Ils veulent la paix.
Antonine, la choc jock.
Non, mais moi, je suis la première qui a déménagé. J'habitais dans le quartier Montcalm, à Québec. Puis il y avait toujours quelque chose. Le festival d'été, le carnaval, le marché aux puces, le monde qui rentrait d'un bar. Je déteste le bruit. Fait, pour vrai, là, genre.
Tu
pense des fois aller habiter. Ben, peut-être pas Saint-Lambert, parce que je veux pas à Montréal, mais elle habite à l'île d'Orléans, tranquille, mais je veux pas entendre des balles de golf.
Non, c'est ça. Mais vous les entendrez pas. Allez voir les images, là. Sérieux, les deux personnes qui ont acheté ce terrain-là puis qui ont bâti le mini-pot, tu vois clairement que c'est des passionnés, des gens qui entretiennent.
Tu vas être comme un leader du camp du oui. Je vais aller faire campagne.
J'ai l'impression qu'il va aller au conseil de ville.
Mais je vais être certainement un client. J'ai trouvé ça de toute beauté puis de voir qu'il y a des résidents. Oui, mais là, ça va faire du bruit, ça va mettre de l'achalandage. Je comprends, pendant les pommes, ça ne doit pas être évident de retourner c'est chez sûr. Vous quand ça arrive, quand ça arrive la rive nord.
Ouais.
Mais t'es à rive nord, tu vas aller chez vous directement sur l'île d'Orléans, puis là, tu sais que tu as une file de 3 heures avant d'arriver chez vous, ça doit être plate. Mais c'est pas à l'année.
Là. On a plusieurs commentaires là, qui rentrent au 418-971-1021 si vous voulez vous joindre à la discussion. Ça passe de les in the boomer à pourquoi eux, ils ont un référendum et pas nous pour le tramway.
Ouais, c'est sûr que de faire des référendums sur les projets de transport à Québec, je ne saurais même pas comment délimiter qui voterait ou voterait pas. Il y a quand même un élément de complexité qui est un petit peu différent.
Grande région de Québec, capitale nationale, tout ce qui fait partie de ça aurait le droit.
Yannick voudrait même faire voter les chats. Il y en a deux, ça lui donnerait du poids dans sa décision.
Ah, je ne sais pas si mon chien voterait pour ou contre le tramway.
On me dit Terrebonne veut accueillir Antonine.
Hein?
Je sais pas. On dirait que Terrebonne voudrait t'accueillir.
Ah non, merci. Ça me tente pas d'aller à Terrebonne.
Ça va. Antonine Iacarini, un gros merci. On t'écoute-tu dans le retour ou tu seras pas là? Non, t'es pas dans le retour. C'est Pascal qui est dans le retour.
C'est Pascal qui
sera
dans le
retour.
C'est quoi cette
confusion?
C'est un chamboulement d'horaire. Denis n'est pas là.
Mais on garde le monde surpris. C'est correct. Oui. Là, t'as mélangé tout le monde. Fait que vous écouterez la radio.
Vous verrez qui est là. Vous entendrez.
Pascal sera là. Ça, je le sais. 12h33, merci. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-101. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. On revient.
Il y a une seule.
Faster.com. Les conditions s'appliquent.
Ben, il n'y a pas de conditions qui s'appliquent du côté du Maurice. C'est juste d'avoir du fun, de vouloir bien manger puis de vouloir profiter du soleil à 23 degrés en ce moment, midi 39. Ben, peut-être que ça vous tente d'aller profiter de tout ça en vacances ou sur votre heure de lunch. Une petite pause là, du bureau puis la sandwich au jambon. Il me semble que ça fait du bien un mercredi. Couper la semaine. C'est là où je vous envoie. Puis si vous y allez, envoyez-nous des photos. On veut en profiter avec vous autres à distance parce qu'on est en studio. Mais on voit cette belle température-là et la première chose à laquelle on pense pour l'heure du dîner, c'est d'aller sur la terrasse du Maurice, sur Grande Allée où ça se promène entre touristes, travailleurs et juste des gens qui font de la plaisance, ben c'est là où vous allez pouvoir jaser de la vie du monde ou encore jaser de votre propre vie. Hein. Il y en a pour les véreux comme il y en a pour ceux qui veulent passer du temps de qualité avec leurs proches, avec des clients, avec une date, avec la famille ou seul. Ben oui, la terrasse du Maurice accueille tout le monde. Aujourd'hui, je vous promets que vous allez bronzer un peu et vous allez vous désaltérer avec des cocktails soignés, travaillés, une carte de vin assurément qui va vous surprendre et des super plats goûteux à partager ou à garder pour vous. Le Maurice, c'est avec ou sans réservation, directement sur Grande Allée.
Les inscriptions du Collège